Le prochain Café Histoire de cette année 2020, proposé par le service patrimoine de la mairie de Île-Dieu, se déroule le 24 février à 15h30 et à 20h30 à la bibliothèque municipale du Ponant. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Tu es à l'origine de ces rendez-vous qui racontent l'histoire de Île-Dieu, mais pas que.
Bah, qui racontent l'histoire de l'Île-Dieu, mais racontée par les gens.
C'est les gens qui racontent également.
Alors en fait, nous... On travaille, le service patrimoine travaille sur un thème qui est annoncé à chaque fois. On met donc dans la boîte tout ce qu'on a, donc ça peut être des documents d'archives, ça peut être des témoignages qu'on est allé collecter, ça peut être des petits films.
Et dernièrement, c'était un petit film.
Alors, le dernier en date sur l'histoire du Virquette, c'était un film qu'on a réalisé avec Olivier Gadal de Doya Film. Mais parfois, souvent d'ailleurs, ce sont des PowerPoint en fait, où on mêle à la fois des documents d'archives, des documents photographiques et puis des documents que les gens nous ont amenés au cours de cette dernière dizaine d'années passées au service patrimoine.
Ce film sur le Virquette est-il disponible sur Internet ?
Alors, à l'heure qu'il est, je ne crois pas. parce qu'on attend simplement la réponse des élus, mais je pense que ça pourra se faire dans les mois qui viennent.
Le prochain Café Histoire, c'est, on l'a dit, le lundi 24 février. Quelle est la thématique, car vous recevez Jean-Paul Léger?
Alors, on reçoit Jean-Paul Léger, qui va donc venir nous parler des marins de l'Île-Dieu, en tout cas de ceux qu'il a interviewés entre 2007 et 2012, où il est allé chercher le témoignage notamment de marins qui ont commencé à naviguer soit juste avant, soit pendant la Seconde Guerre mondiale.
Donc des marins à la voile ?
Alors voilà, un temps où il y avait encore de nombreux thoniers à voile sur l'île, et puis encore des sardiniers aussi, des pinasses, et donc qui nous raconte une marine qui évidemment n'existe plus, mais qui fut un des fleurons de l'économie insulaire.
Une marine sans radio, sans satellite, sans moyen de communication.
Alors voilà, une marine où les marins, une fois partis pêcher le thon en dehors du golfe de Gascogne, n'avaient plus aucun moyen pour se signaler et pour donner des nouvelles à la famille, à part donc les opérateurs de Saint-Nazaire, qui ont laissé dans toutes les familles un souvenir assez attendri, parce que c'était le seul lien entre les marins et la terre.
C'est vrai qu'il y avait un gros poste où la vacation pêche était donnée.
C'était à l'époque, effectivement, et ça a été quand même jusque dans les années 60, le seul moyen pour les marins de dire où ils en étaient, si tout allait bien. Et c'est vrai que c'était un rendez-vous très attendu dans les familles.
C'était des marées de un mois et demi, voire plus.
Alors, à la voile, non. Parce que ces bateaux n'étaient pas équipés de radio, mais n'étaient pas équipés non plus de glacières. Donc le thon, c'est un poisson gras, donc qui se corrompt assez vite. Donc ces bateaux faisaient des marées assez courtes, entre 15 et 20 jours pour les plus longues, quand ils arrivaient à rentrer à temps. Parce qu'à la voile, on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Donc ce qu'on redoutait le plus à bord de ces bateaux, c'est précisément l'accalmie, et notamment quand il y avait une bonne pêche installée sur les espars, sur le pont, mais donc à la merci des intempéries, une pluie notamment, qui pouvait être redoutable, et puis aussi de la vitesse de temps pour rentrer au port et pour pouvoir vendre à temps avant que le thon soit pourri.
Jean-Paul Léger a rencontré combien de marins ?
Alors là, pour écrire le livre qu'il va venir donc présenter, en tout cas dont il va venir présenter certains des témoignages.
Il était une fois des marins.
Il était une fois des marins, donc qui est sorti en 2012. Dans le livre sont relatés les témoignages d'une dizaine de marins. Plus donc les témoignages collectés par Maurice Gindreau, qui lui a été prêtre donc entre 71 et 81 à l'Île-Dieu, et qui embarquait, qui a eu le souci d'embarquer.
Il partait faire des marées.
Voilà, faire des marées, notamment, alors j'espère que je vais oublier personne, mais à bord de la Souris des Mers, à bord du Josse. Je me demande d'abord du Verso aussi, je crois. Et donc c'est un prêtre qui a voulu connaître la vie en fait de ses ouailles, et qui a pris la peine de faire des marées et de les relater. Alors lui en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il tenait un peu le journal de bord de la marée. Et puis ensuite, il en faisait, il prenait des photos aussi, et il en faisait un petit cahier qu'il remettait aux familles. Et donc, quand Jean-Paul a commencé à travailler sur Il était une fois des marins, eh bien pour lui, il trouvait également intéressant de demander à Maurice Gendreau de prêter donc ses interviews pour faire un ouvrage plus conséquent et qui relate un peu, davantage la vie des marins. Voilà.
Pour avoir eu Jean-Paul en interview, il disait que c'était pas simple d'interviewer des marins et des anciens marins.
Bah, les marins sont souvent des taiseux. Et puis, ils estiment que, parce que justement, ils vivaient à l'Île-Dieu où la plupart des hommes étaient des marins, eh bien, ils estiment que c'est banal, hein, finalement. Sauf que souvent, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que, bien que la France ait une grosse façade maritime, elle a de nombreux ports, mais de moins en moins. Et cette vie qu'ils ont vécue, c'est un temps qui aujourd'hui n'existe plus.
Comme donc, tu le disais, c'est la marine à voile.
Voilà. Et donc c'est très intéressant pour nous d'avoir gardé la trace, et grâce à des gens comme Jean-Paul, mais d'autres encore, qui ont pris la peine d'aller écouter les marins, de garder la trace de cette marine-là.
On retrouve notamment Ernest dans ce livre.
Alors, on retrouve plein, je vais donner des noms. Hein.
Bah oui.
Alors, on retrouve, bien sûr, des gens qui aujourd'hui, pour la plupart, sont décédés, pas tous, mais la grande majorité. Donc, il y avait Auguste Viau de Kerborny, donc qui, lui, a embarqué pour la première fois en 1943, donc en pleine guerre, sur le sardinier L'Espérance. On a eu Paul Turbet, dit Séraphin, de la Meule, qui lui a embarqué à 13 ans sur le Belle Lurette, donc un thonnier d'Indé, pour une marée de thon. Pierre Ricolo, qui lui était né en 1919 et qui est embarqué en 1931 à bord du Louis Francis, donc là aussi un d'Indé, un thonnier. Et puis, il a collecté donc, le témoignage d'Ernest, effectivement, Ernest Buchou de la Pointe du But, qui lui était né en 22 à la Pointe du But, dans une des maisons...
1922,
à la Pointe du But, dans une des maisons les plus exposées aux embruns et aux tempêtes de Norwatt. Donc lui, son apprentissage s'est fait à bord du Notre-Dame de Mont-Carmel, donc un thonnier à voile, là aussi. Il est allé trouver René Viau aussi à Kerbossy, donc, qui, lui, était né en 1933, et avait embarqué à 14 ans sur le chalutier qui s'appelait Boutauvent, donc en 1947, donc juste après la guerre. Et lui, il ne lui a pas fallu longtemps pour prendre sa première branlée, puisque 1947, eh bien, il y a une tempête exceptionnelle, enfin d'une violence exceptionnelle qui a balayé le golfe de Gascogne, donc en avril, donc il venait d'embarquer. Donc, il disait, ce fut un 3 avril, un jeudi saint meurtrier, parce que c'est aussi la date du naufrage de l'Arc-en-Ciel, donc qui a coulé en entraînant dans la mort 5 hommes et un mousse.
Des témoignages joyeux et moins joyeux.
Voilà.
Tout en parler, Pascal.
Et puis, pour finir, eh bien, le témoignage d'Yves Mousnier, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui, lui, a embarqué en 1941 sur la Fleur de Paris, que patronnait son père, et qui raconte comment les avions anglais mitraillaient les navires de pêche. Puisqu'en fait, en pleine guerre, eh bien, les sous-marins allemands venaient se réfugier sous les navires de pêche. Et les alliés, évidemment, voulaient déloger les sous-marins allemands et pour ça, de temps en temps, effectivement, mitraillaient les navires de pêche.
Tous ces témoignages sont à découvrir dans le livre « Il était une fois », des marins.
Voilà. Ainsi que celui de Raymond Samzin, alors qui, lui, a une histoire différente puisqu'il a participé à l'aventure polaire. Et puis celui de Marcel Bernard de la Meule, que les gens d'ici connaissent bien, qui est beaucoup plus jeune, et qui lui, donc,
parti au soleil.
Après avoir fait son apprentissage à la régie, est parti dans les îles où il a rencontré sa femme.
Sacrée aventure pour lui aussi.
Une sacrée aventure pour un petit gars de l'île-Dieu, oui.
Et tous ces marins étaient des mousses, pratiquement, dans ce livre.
C'est-à-dire que la vie de marin, elle commence par ça, aujourd'hui encore. On ne peut pas être patron avant d'avoir été matelot et avant d'avoir été mousse.
Des jeunes mousses, 12 ans.
Et donc, on l'a évoqué, la plupart embarquaient très très tôt. Je crois que dans les témoignages le plus jeune, c'est Pierre Ricolo, embarqué à 12 ans et demi. Et effectivement, beaucoup lui ont raconté la vie du mousse à bord, qui était quand même une vie extrêmement dure. Yves Moussnier dit le mousse, c'était le chien du bord. Les autres ont des termes parfois un peu moins crus, mais en tout cas racontent effectivement un apprentissage à la rude.
À la dure.
À la dure, voilà. Alors, parfois, sur des bateaux où vraiment c'est à la dure, c'est-à-dire que patron et matelots sont durs avec le mousse, et, enfin, voire méchants, malveillants.
Odieux. Hein,
ouais. Voilà. D'autres disent qu'ils étaient sur de bons bateaux, où les gars étaient sympas, mais malgré tout, l'apprentissage, Yves Moussnier, lui qui a commencé avec son père, dit clairement, le mousse c'était le chien du bord, le patron c'était mon père, mais ce n'est pas pour cela qu'il me faisait des cadeaux, c'est lui qui m'a dressé.
C'est
on imagine que
témoignage.
C'est quand même un apprentissage difficile, hein, avec des journées très très longues en fait, puisque le mousse c'est celui qui va mettre en route le poêle et c'est celui qui va allumer les fanaux de nuit et qui va se coucher une fois qu'il a tout ramassé dans la cuisine.
Donc il faisait le café.
Voilà, qui fait le café le matin et qui range tout le
en
soir.
En étant souvent malade en plus.
Alors, c'est vrai que dans les témoignages là qu'on a, je crois qu'il y en a qu'un ou deux qui disent « Heureusement, moi, j'étais pas malade. » Mais tous les autres disent avoir énormément souffert du mal de mer. Et alors, du mal de mer, bien sûr, à cause de la mer, mais aussi à cause des odeurs. Notamment, on a Monsieur Viau, Auguste, qui raconte que lui, en tant que mousse, donc sur un sardinier, il devait préparer la rogue, donc ce produit à base d'œufs de poisson qu'on mélangeait avec de la farine d'arachide et à de l'eau de mer pour appâter le poisson, amater, comme on dit à l'Île-Dieu.
En gros, c'était de la strouille.
Ben, c'est pas de la strouille, parce que la strouille, c'est fait à base de déchets de poisson. Là, c'est vraiment la rogue, la sardine, c'est un petit poisson assez délicat, qui mange pas n'importe quoi. Et donc, elle a le bec fin. Donc, il faut des œufs de poisson, et puis, donc, on mélangeait, parce que les œufs de poisson coûtaient cher, venaient d'ailleurs souvent de. C'était souvent des œufs de morue hein, qui venaient des pays du Nord. Et donc, on le mélangeait avec de la farine d'arachide pour ils ont en faire plus, quoi, et puis pour le rendre un petit peu plus épais. Et après, on le jetait à l'eau hein, pour appâter la sardine. Donc, lui, il raconte que rien que l'odeur de la rogue, et notamment, il raconte qu'il descendait la rue du Courseau, où il y avait plein de bateaux qui avaient leur magasin de bateaux. Et donc, à l'époque, il y avait pas mal de sardiniers. Et donc, rien qu'en descendant la rue du Courseau pour aller embarquer, quand les patrons ouvraient leur magasin, cette odeur de rogue commençait déjà à lui donner envie de vomir. Alors, vous imaginez une fois arrivé à bord. Et puis, il y en a d'autres qui racontent l'odeur du gasoil, du pétrole, parce que c'était des fours à bois à bord de ces bateaux et qu'on mettait en route en mettant un peu de pétrole sur le bois. Et là aussi, dès le matin, pour faire le café, allumer le poêle, ça soulevait un peu les
estomacs. C'était violent.
Oui.
Les temps ont bien changé.
Alors, heureusement, les temps ont changé. Les bateaux, aujourd'hui, sont quand même des bateaux beaucoup plus confortables et, je dirais, beaucoup plus aussi sécurisés. Et c'est tant mieux.
Il était une fois des marins. Le livre n'est plus disponible ?
Alors, malheureusement, oui, c'est un livre qui n'est plus disponible parce que, malheureusement, il a été édité aux éditions La Découvrance qui ont dû déposer le bilan. C'est dommage parce que c'est une maison d'édition qui éditait des livres de qualité. Mais bon.
Il y a eu des sardiniers jusqu'à quand ?
Alors, bonne question.
Question piège.
Non, en gros, ça s'est vraiment arrêté après la Seconde Guerre mondiale, hein, dans les années 50.
Pourquoi ? Est-ce que tu le sais ?
Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées, notamment la disparition du poisson. Parce que la sardine, c'est un poisson très fluctuant. On sait que fin 19e, il y avait énormément de sardines autour de l'île. Mais petit à petit, le poisson est parti. Alors parti peut-être aussi à cause de la surpêche, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les usines de conserverie tournaient à plein, il y avait quand même énormément de pêche dans les eaux, dans le coureau entre l'Île-Dieu et donc le continent. Donc poisson fluctuant, surpêche, peut-être aussi les chalutiers qui ont tendance à tout pêcher, y compris ce qu'on appelait la menuse, hein, donc les petits poissons qui servent de nourriture aux gros. Voilà.
Pas mal d'explications.
J'ai pas d'opinion particulière, mais je pense qu'il y a des facteurs multiples.
Est-ce qu'il y aura des anciens marins qui ont témoigné dans ce livre, qui sont présents à ce Café Histoire du lundi 24 février ?
Alors, parmi ceux qui ont témoigné, comme je l'ai dit, beaucoup sont décédés. Par contre, bah, évidemment, là, aujourd'hui, vont partir des invitations pour les familles. Et comme on n'a pas tous les noms des descendants et tout ça, et bah, surtout, il ne faut pas se baser sur les invitations. Ceux qui ont envie de venir, viennent. Hein. Les cafés d'histoire, c'est vraiment, je le
c'est
répète,
ouvert à tout le monde.
Bien sûr, par courtoisie, on va faire ces invitations à destination des familles. Mais c'est pas parce qu'on ne reçoit pas d'invitation ou qu'on n'est pas de la famille qu'on n'a pas le droit de venir écouter ces témoignages.
Même témoigner.
Voilà. Et alors, voir témoigner, parce que, comme je le disais au début...
Il y a vraiment des anciens marins qui ont des choses vraiment à raconter.
Voilà, beaucoup de nos anciens, là, qui ont été interviewés, et heureusement, Jean-Paul l'a fait, voilà, eh bien, ne sont plus là, hein. Mais voilà, il y en a plein d'autres qui ont plein de choses à raconter. Donc, les cafés d'histoire, c'est fait pour ça. C'est fait pour écouter, mais c'est aussi fait pour dire ce qu'on sait, ce qu'on a vécu. Et aucun témoignage ne nous est indifférent.
Et voilà. Même poser des questions.
Mais se renseigner aussi, bien sûr. Hein.
C'est vraiment l'histoire de l'Île-Dieu et de ses marins. Pour
voilà,
ce café histoire.
À partager.
Avec Jean-Paul Léger.
Alors Jean-Paul sera avec nous, évidemment, c'est lui qui fera l'exposé cette fois-ci.
À 15h30 et à 20h30, deux rendez-vous,
au choix. C'est la même chose à chaque fois, hein. C'est simplement bah, pour que
les
gens puissent
pour
venir.
Pour les plus anciens, on peut dire ça comme ça?
Oui, ou ceux qui n'ont pas envie de sortir le soir.
Voilà.
Et puis 20h30, bah, pour ceux qui travaillent notamment et qui ne peuvent pas venir à 15h30.
C'est à la bibliothèque municipale du Ponant.
Voilà, toujours le même rendez-vous. Et c'est toujours le lundi, parce que c'est le jour de fermeture de la bibliothèque.
On a tout dit, Pascal ?
On a tout dit.
À très bientôt.
À très bientôt.